Every day. Anywhere. Anytime. A digital guestbook channel. Ebenezer International. Your station.
La RCEI vous propose d'écouter.
Maintenant, la question de l'improvisation. N'a-t-on pas toujours fait croire que c'était l'affaire des grands maîtres ?
Alors, cette question complète la précédente que vous avez dit sur la justesse. L'improvisation, c'est vital dans l'étude d'un instrument. Alors, je sais que là, je vais en faire hurler certains, notamment dans mes amis des conservatoires, mais je leur casse du sucre sur le dos parce que j'hésite pas.
Art et culture. Un programme qui vous conduit dans l'univers des artistes, musiciens, compositeurs et interprètes. Art et culture sur la RCEI, votre radio. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue à ce quatrième numéro de l'émission Art et Culture. Un programme consacré aux artistes, musiciens, compositeurs et interprètes. C'est votre ami podcasteur Franck Doristil qui vous parle depuis la France métropolitaine et qui a le plaisir de vous conduire aujourd'hui dans l'univers d'un autre invité. Il s'agit du coach du violon, Monsieur Stanislas Boulbic. Dans les prochaines minutes, nous l'aurons avec nous au micro de la RCEI, votre radio. Il nous permettra non seulement de découvrir son parcours, mais de comprendre également quelques-unes des techniques qu'il utilise dans l'enseignement de cet instrument, le violon. Comme il est de notre habitude, de très belles sélections musicales vous seront proposées tout le long de l'émission. D'ores et déjà, je vous souhaite une agréable écoute. Dear listeners and friends of the Digital Gospel Channel, I greet you friendly and I welcome you in this brand new edition of Art and Culture. I'm your friend podcaster Franck Doristil still speaking from France, and it is really a great joy, as usual, to know that you are listening to this radio station, whose main goal is to feed your soul with good spiritual food and also to help you to discover some of our friends' universe. Don't forget to tell all your friends and relatives to join us at www.radioeben-ezerinternational.com. And if you want to download any episode, you can visit our podcast site www.frankradio.podomatic.com. Stay in there in pitch as we will welcome today our guest, a violin teacher, Mr. Stanislas Boulbic from France. Sachez bien, chers amis à l'écoute, que vous écoutez la quatrième édition de l'émission Art et Culture. Et pour préparer l'intervention de notre invité, M. Stanislas Boulbic, nous vous proposons ce premier morceau, le canon de Pachelbel, interprété par un quatuor à cordes. Je vous souhaite une agréable écoute. Art et culture. art et culture.
Bonjour, monsieur Stanislas Boulbik.
Bonjour, monsieur Doristil.
Quel privilège de vous avoir comme invité dans cette édition de notre programme Art et Culture. Soyez le bienvenu sur notre
Merci,
chaîne.
Mais c'est moi qui suis honoré.
Pour nos auditeurs qui vous découvrent pour la première fois, qui est donc monsieur Stanislas Boulbik?
Alors, je me présente toujours comme un pédagogue du violon et non pas comme un interprète. Quelle est la différence? L'interprète, comme son nom l'indique, est un concertiste. Je ne le suis pas. Je suis surtout quelqu'un qui analyse, qui réfléchit et qui enseigne. Autrement dit, pour prendre un terme moderne, un coach.
Quelqu'un qui analyse, qui réfléchit et qui enseigne. Quelles sont, à votre avis, les qualités qu'exige le métier de coach dans quel que soit le domaine et surtout dans ce que vous faites là, coach du violon?
Alors, avant tout, bien connaître la partie qu'on enseigne. Autrement dit, c'est pas un métier qui s'improvise. Et d'une, surtout savoir écouter les autres. Savoir pourquoi, entre deux élèves, pour une même partition, pour l'un ça marche pas, et pour l'autre ça marche. Ce sont jamais que des mains à cinq doigts, mais l'essentiel est là-dedans, dans la tête. Il y a quelque chose qui coince, alors c'est pas en hurlant après l'élève qui réussit pas, mais c'est en écoutant pourquoi ça coince. C'est ça mon travail.
Vous allez nous en dire beaucoup plus, mais la musique semble faire partie des grandes traditions des familles françaises. Est-ce bien ce qui a favorisé votre initiation? Sinon, comment tout a commencé pour vous dans la musique?
Alors, il y a deux questions. Oui, c'est depuis très longtemps l'apanage des grandes familles de la haute bourgeoisie. On étudie des instruments nobles, comme on dit, le violon, le piano. Parce qu'il est bien certain que la guitare ou l'accordéon, c'est pour le petit peuple. Non, moi, ça n'a pas commencé comme ça. Bon, d'abord, j'ai jamais été dans des grandes familles bourgeoises. Mes parents ont travaillé toute leur vie dans les métiers, je dirais, de tout un chacun. Et c'est pas ça qui m'a déclenché. D'abord, ça n'a jamais été l'apanage de notre famille, la musique. Et ensuite, c'est un peu le hasard. J'étais tout petit, j'étais gamin, et j'ai vu un film où Jean Marais, le comédien, joue du piano. Et là, bingo, ça a été un déclic. J'étais tout petit, quoi, c'est en 63. J'avais 5 ans, et j'ai voulu faire de la musique. Alors, voilà. Et donc, j'ai été pris en main par un violoniste qui était tout jeune à l'époque, et qui, après, a fait l'ouverture de l'Orchestre de Paris en 67. J'ai travaillé longtemps avec lui, mais il avait un enseignement, bon, qui était très, très classique, académique, jusqu'au jour où nos routes se sont séparées. Voilà. Bon, après, je t'en dirai plus sur les gens que j'ai rencontrés après.
Vous avez effleuré quelque chose qui m'a touché, c'est la question de l'accordéon. Il semble qu'ici, en France, cet instrument a une très mauvaise réputation.
Bah, et pourtant, comme vous dites, mais tout ce qui est musette, c'est des accordéonistes qui jouent ça, et avec quel talent et avec quel plaisir je les écoute. Et maintenant, bon, en jazz, bien sûr, mais surtout, ce sont les Roumains qui jouent le musette français, donc sur les accordéons. Mmh. Et rappelez-vous bien, on l'avait surnommé le piano du pauvre. Mmh. Oui, je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes peut-être un peu jeune pour ça, mais on l'appelle aussi le piano à bretelles. Parce que c'est des bretelles pour le tenir, et le piano du pauvre.
Donc, pour voilà. Quelqu'un comme moi qui ai grandi dans une famille où l'accordéon était toujours là présent, et c'est ce qui m'a permis de m'initier dans la musique, c'est un signe de pauvreté extrême.
Je dirais, bon, c'est les traditions, mais c'est aussi un instrument qui coûte très cher, faut pas faire d'illusions. Ça coûte aussi cher qu'un piano. Et l'étude de l'instrument est tout aussi difficile.
Donc, en tant que professeur de musique ou musicien tout simplement, quel est votre avis personnel sur cet instrument que j'admire, qui me manque beaucoup? Quel est votre avis personnel sur l'accordéon? Peut-être que votre impression va aider pas mal de gens à se faire une autre idée de ce joli instrument, si vous me le permettez.
C'est un instrument que j'adore. Pourquoi? Ben parce que j'aime beaucoup l'époque du début du siècle, enfin du 20e, pardon, il y a eu des grands chanteurs, de grandes chanteuses comme Edith Piaf qui était aussi accompagnée à l'accordéon. Il y a eu aussi, bon, beaucoup de tziganes qui ont été accompagnés à l'accordéon, notamment des Roumains, et ça j'adore cette musique-là aussi. Le jazz, je l'ai dit, bon, c'est un instrument que j'aime beaucoup. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il est utilisé dans la musique contemporaine, ça c'est pas trop mon domaine, j'aime pas ça. Mais pour tout ce qui est jazz, musique folklorique, j'adore cet instrument.
Pour ceux de nos auditeurs qui ont eu une mauvaise conception de l'accordéon, j'unis ma voix à la vôtre pour vous dire qu'il s'agit d'un instrument extraordinaire.
Oui, et qui, ma foi, n'est pas facile du tout.
Difficile à jouer parfois.
Oh là là.
Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils écoutent la 4e édition de Art et Culture et que notre invité est bien monsieur
Stanislas Boulbik.
Votre nom sonne un peu, pas bizarre, mais quelle est l'origine de ce nom, en fait?
Bon, c'est pas mon nom.
C'est votre nom d'artiste.
Exactement. Bon, c'est un nom qui sonne d'Europe centrale. Il a été créé par mon grand ami Rémi. Rémi, qui nous a quittés il y a 3 ans et demi. Et c'est lui qui avait créé ce nom, dans un but alors complètement différent. Je ne citerai pas ça à la radio parce que c'est épouvantable, mais je l'ai pris du bon côté. Et quand il nous a quittés très brutalement, je me suis dit, il faut qu'il reste quelque chose de lui. Mmh. Alors j'ai pris sa création, j'en ai fait mon nom.
Monsieur Boulbik, pour devenir enseignant professionnel jusqu'à prôner sa propre méthode, il faut un parcours bien riche, bien garni. Qu'en est-il pour vous ?
Alors, bon, pour devenir enseignant professionnel, il y a plusieurs filières. Soit on passe par les conservatoires, donc l'académisme, c'est infernal. Alors le solfège, j'en ai fait du solfège, je le maîtrise. On passe des concours, des prix, des examens, on est bardé de diplômes, jusqu'au jour où, soi-même, on entre dans un conservatoire et on fait la même chose et on continue donc dans l'académisme. Bon, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait beaucoup de solfège. J'ai eu une distinction de fin d'études de conservatoire municipal. Le reste, je l'ai étudié en privé. Mmh. Parce qu'au jour où j'ai rencontré certains élèves de Hopno avant elle, le gars qui m'a formé était élève tardif de Dominique Hopno, mais élève quand même, j'en ai rencontré d'autres qui tous m'ont fait découvrir, mais un peu comment c'est une route sinueuse. J'ai fait ma route tout seul, je me suis fait aider, bien entendu, j'en ai ramé, j'ai bavé, et jusqu'à prôner ma propre méthode, comme vous dites, mais qui est basée sur de nombreuses années de recherche, en me disant, bon, il n'y a rien qui soit vraiment définitif, pourquoi lui il réagit comme ça, pourquoi lui il réagit comme ça, je me remets en question, et j'analyse. C'est comme ça que j'ai fait ma méthode.
Alors, vous ne cachez pas le fait que vous étiez élève de Madame Dominique Hopno. Pourquoi cette manque de reconnaissance ?
Alors, elle m'a été conseillée donc par une jeune violoniste qui m'a fait travailler entre 79 et 80. Pourquoi 80 ? Parce qu'après, je suis parti à l'armée. Je l'ai retrouvée après. Elle m'a dit, oui, tu pourrais le rencontrer, ça ferait beaucoup de bien. Bon. J'ai rencontré Madame Hopno, j'étais dans un état... Alors, elle était spécialisée dans la récupération de violonistes amateurs ou professionnels en déroute. J'étais, quand je l'ai connue, c'était début 82, j'étais au bord du gouffre. Je ne dis pas que grâce à elle, j'ai fait un pas en avant, mais je suis passé largement au-dessus. Et bon, elle a bien compris où j'en étais. Elle m'a repris en main. La première chose qu'elle m'a appris, c'est... Bon, elle m'a dit... voilà la tenue d'archer. Et ça souffrait aucune... C'était ça. Et voilà le diapason. Et après, elle m'a appris à paramétrer le son et l'archer. C'est-à-dire partager le son dans l'espace et dans le temps. Pourquoi cette reconnaissance ? Parce que c'est grâce à elle que j'ai pu continuer la musique jusqu'au jour où j'en ai fait mon métier. Et il y a une dizaine d'années, j'ai constaté que son nom était galvaudé sur Internet par des gens qui se réclamaient ses élèves et qui ne l'avaient jamais rencontré. Pourquoi ? Parce que d'après l'âge qu'ils indiquaient sur les publicités, ils étaient trop jeunes pour l'avoir connu. Voilà.
Notre programme continue sur la RCEI, nouvelle édition de Art et Culture avec notre invité, le coach de violon, Monsieur Stanislas Boulbig. Nous avons reçu récemment un pianiste concertiste français. Je ne sais pas si ça vous parle, Monsieur Job Bernard. Vous avez déjà entendu parler de
lui ? Malheureusement, non. Et je le regrette.
Je vais vous permettre d'écouter un morceau interprété magistralement par ce compatriote à vous, qui ne manquera pas de vous plaire.
Je l'espère.
Je vous souhaite une agréable
art et culture. Art et culture.
Amis à l'écoute, nous continuons notre programme avec notre invité qui nous parle depuis la ville de... Vous n'êtes pas trop loin de Paris.
On est à la... Comment dire? À côté de la banlieue sud de Paris. Là. On est juste au sud.
Juste au sud de Paris.
Tranquille.
Tranquille. Est-ce qu'il y a un petit coin que vous aimez pour faire votre petite balade du week-end ou pour vous amuser? Un petit coin que vous pouvez suggérer à certains touristes qui sont de passage?
J'ai un truc le dimanche matin, c'est que je fais ma balade pour aller au marché. Mm-hmm. D'habitude, à partir de là, je fais une grande balade dans Paris d'abord, ça me détend. Je passe par Montparnasse, il y a des très jolis coins, tout ça. Je me balade, je remonte. Entre-temps, je vais au marché, je me prends quelques gâteries pour le dimanche. Voilà, c'est mes habitudes. Le dimanche après-midi, je me repose.
Et vous le faites avec beaucoup de plaisir.
Ouais. Ça, sauf quand il pleut, qu'il fait froid, je reste au chaud.
Vous savez, il y a très peu de gens qui savent exploiter le charme de leur pays natal, de leur ville, la ville où ils vivent.
C'est exact.
C'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire aussi.
Il y a un tas de quartiers où on ne va jamais, c'est bien dommage. Je pense notamment dans le 18e, il y a des coins très sympathiques. Mm-hmm. J'ai découvert récemment, en allant voir quelqu'un, une élève, là, bon, très joli quartier.
Mm-hmm. Donc, certains peuvent penser que quand on est parisien, on connaît tous les coins.
Oh non, oh là là, non. Non, surtout pas. Moi, il y a des coins où je vais très très peu, à vrai dire, je n'ai pas le temps. Mais quand j'ai le temps, je me balade, là. Bon, Noël, y a les balcons de février, Pâques, les grandes vacances, j'en profite pour me balader dans Paris, ça fait beaucoup de bien.
Mais je pense qu'il serait difficile de trouver un Parisien qui ne connaît pas la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, ça c'est des mœurs.
Oui, mais ça c'est des grandes lignes. La Tour Eiffel, je vais vous avouer, écoutez, j'ai 55 ans, je ne suis encore jamais monté au troisième étage. Je suis allé au second quand j'étais tout petit avec ma grand-mère. Je suis jamais monté au troisième. Bon, comme je suis jamais monté au sommet de la tour Montparnasse, il paraît que c'est magnifique comme point de vue. Pourquoi ? Parce que c'est le seul endroit d'où on la voit pas. mais on voit tout Paris, c'est magnifique.
C'est magnifique. Alors revenons à nos moutons.
Tout à fait.
Vous allez nous parler maintenant de votre école de musique. Depuis quand et comment fut fondée cette école ? Et surtout pour quelles raisons ?
Bon. Alors, quand je me suis mis à mon compte assez récemment, c'est-à-dire que j'ai passé ma vie donc à me rendre compte que je n'étais pas vraiment interprète. Bon, j'ai joué en orchestre, j'ai fait des petits concerts, de la musique de chambre, et je me suis rendu compte que je recherchais autre chose, que j'ai mis des années à comprendre, jusqu'au jour où Dominique Opneau m'a dirigé vers une voie, c'est-à-dire la recherche technique. Je me suis rendu compte que j'ai toujours été entre guillemets, accro à la technique, surtout à comprendre pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas. Et je me suis mis à mon compte tardivement, c'est le 15 septembre 2001 que mon école a été fondée. Pourquoi le 15 ? Parce que j'y pensais depuis longtemps, je me suis dit, je ne peux pas laisser passer tout ce que j'ai appris, ce qu'on m'a transmis, bon, et puis le fruit de mes recherches personnelles. Je me suis dit, bon, un jour je partirai moi aussi, il ne faut pas que tout ça, ça soit perdu. Alors un jour, je me suis pris par la main, le 15 septembre, je suis allé à l'URSSAF, et j'ai pris un numéro, et je me suis lancé. Alors, le 15, c'est un symbole, pourquoi ? Le 11 septembre 2001, il y a eu les événements du World Trade Center, tristement célèbre. Le 21 septembre, le violoniste Isaac Stern est mort, il avait 81 ans, l'américain. Et moi, le 15, je me suis mis à mon compte. Voilà, c'est des repères assez solides.
Il semble que vous accordez beaucoup d'importance aux chiffres aussi, tout comme les notes de musique.
Ouais, oui, ça je ne peux pas expliquer pourquoi.
Et la musique, même si c'est des signes noirs, ronds, blanches...
Ce sont des chiffres.
C'est des chiffres aussi.
Mais détrompez-vous, j'ai toujours été nul en arithmétique et en mathématiques, j'y comprenais rien. Alors, les chiffres, je les manipule pour la musique. Pour tout ce qui est scientifique, alors là, je patauge complètement.
Pourtant, quand vous exécutez une partition avec des doubles croches, des triples croches, points partout...
Paradoxe est là, c'est que je ne peux pas expliquer comment. C'est que je ne conçois pas les chiffres autrement que dans ce domaine-là.
C'est extraordinaire. Et qu'est-ce qui vous a inspiré cette méthode innovante et même révolutionnaire que vous prenez actuellement ?
Eh bien, c'est parce que je n'ai pas été formé comme ça. Alors, quand j'étais tout petit, j'ai eu des tas de copains comme ça qui ont été formés au conservatoire. Alors d'abord, solfège, c'est effroyable. Et quand enfin on a fait une, deux ou trois années de solfège, enfin on touche un instrument de musique. Bon, c'est ce qui pousse beaucoup de petits-enfants à abandonner, parce qu'ils font du solfège pendant trois ans, mais ça les écœure. Et en plus, un enseignement qui a d'une rigidité au conservatoire, c'est épouvantable. Je suis passé par là et je ne voulais pas que les autres aient la même route que moi. Alors je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose pour faire comprendre aux gens qu'il y a un malaise en France de la pédagogie. Opneau a monté son affaire au milieu des années 50 en disant la même chose. Moi je dis pareil 30 ans après, il y a un problème et j'essaie de faire en sorte que les autres ne passent pas par cette route. Donc moi je prends les gens en main sans solfège. À vrai dire, je leur masque les difficultés, ils jouent tout de suite quelques notes, et je leur dis, voilà, ce que vous venez de jouer, ou ce que tu viens de jouer, si c'est un gamin, ça s'écrit comme ça, et ça s'appelle une ronde, parce qu'elle est toute ronde, et elle conduit jusqu'à 4. C'est déjà du solfège, et l'enfant tire un son On a une notion de solfège sans même se rendre compte. Révolutionnaire, c'est gentil de me dire ça. Je ne pense pas être le seul à prôner ce genre de méthode. Mais c'est vrai que, bon, ça ne plaît pas à tout le monde.
Ne craignez-vous pas d'être vu comme quelqu'un qui veut banaliser l'apprentissage de cet instrument considéré comme un luxe par plus d'un?
Je ne le crains pas, mais je l'espère. Précisément, c'est que ce soit un luxe, c'est vrai. Vous disiez tout à l'heure, c'est l'apanage des grandes familles de se payer un professeur. Bon, c'est un métier, j'en vis. J'en vis pas démesurément, je fais en sorte que tout un chacun puisse accéder à l'enseignement d'un instrument comme le violon. Et pas seulement les familles de la haute bourgeoisie. Un petit enfant des bas quartiers peut jouer du violon. Banaliser, oui, c'est le mot, il faut qu'ils y accèdent. Et c'est généralement des gens qui sont les plus motivés pour apprendre. Contrairement aux grandes familles, il y a papa et maman, ils sont riches, ils payent, donc ils font ça comme ça, comme s'ils jouaient à autre chose. Non, eux, ils en veulent, ils sont motivés. C'est un luxe pour certains, mais ça ne devrait pas l'être.
Quels sont pour vous les principes que vous utilisez dans votre travail que l'on peut considérer comme du coaching musical? Quels sont ces atouts-là?
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, je me présente comme pédagogue et non pas comme interprète. Qu'est-ce que fera un interprète parmi les plus grands interprètes du monde? Il y en a qui sont encore vivants. Ils prennent une partition, ils vous la jettent sur la table. C'est ça pour la semaine prochaine, sinon c'est pas la peine de revenir. Bon, ok, ils ont des réussites, mais sur 100 élèves, ils en perdent 99. Moi je dirais, voilà, vous voulez jouer ça? D'accord. Mais attention, vous pouvez heurter des difficultés. Alors, je vais les accompagner dans la découverte. Je ne vais pas les précipiter dedans. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'entends le mot pédagogue ou coach, qui est un terme beaucoup plus moderne, il faut vivre avec son temps. Je vais leur dire, voilà, pour jouer ça, voilà. Attention, il y a des grosses difficultés, on va tenter de passer au travers. Et quand je me rends compte que l'élève commence à buter, je dis, là, il est temps d'arrêter et de prendre un autre morceau. Et on y reviendra plus tard. Parce qu'il y a des morceaux qui, de toute façon, vont vous résister toute votre vie.
Donc, la musique est donc pour vous un vrai métier qui vous permet non seulement de vous détendre, mais de gagner aussi votre vie. C'est pas seulement du passe-temps.
Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Beaucoup d'interprètes, de bons interprètes d'ailleurs, des gens d'orchestre ou des solistes, font la pédagogie pour arrondir les fins de mois. Alors, ils vont au conservatoire, ils ont une classe où ils enseignent comme des interprètes, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas de la même façon. L'interprète, on lui met une partition sur le pupitre, il faut que ça passe, parce qu'il a son concert dans une semaine. Autrement, il risque de perdre sa place, d'être mal vu, et ils réagissent pareil avec les élèves au conservatoire. Moi, je dirais que ce n'est pas une activité secondaire, c'est un métier à 100%. C'est-à-dire que, on en vit, alors pour en vivre il faut déjà comprendre que l'élève attend quelque chose. C'est pas une activité secondaire, c'est un métier à 100%.
Voilà. Un métier à 100%. Et il y a une question que je ne veux pas laisser tomber, c'est que je constate que vous semblez vouloir faire disparaître tous les obstacles qui ont poussé bien des gens à rendre les âmes ou tout simplement à laisser tomber définitivement le violon, ce bel instrument.
Oui, alors les faire disparaître, c'est pas tout à fait le mot, mais je les cache. je les camoufle. Par exemple, il y a des coups d'archer qui sont très difficiles. Je les fais aborder à la première leçon. Donc pour le jeune élève, mais c'est naturel de faire tel ou tel coup d'archer parce que pour lui, il ne voit pas la difficulté. Bon, jusqu'au jour où je lui dis, voilà, attention. Maintenant, regarde ce que ça donne chez tel et tel violoniste. Ah bah oui, bah pour moi c'est facile, ça passe. Donc je camoufle tout. Jusqu'au jour où, bon, fatalement, l'élève va se rendre compte qu'il y a des difficultés, j'ai caché. Il y sera confronté, mais il sera motivé pour passer outre parce qu'il il va vouloir aller outre de façon simple, facile. Et pareil pour le solfège, d'ailleurs.
Merci. Nous allons prendre une autre pause musicale. Il y a un grand pianiste, un grand talent. artistes italiens que nous avons reçus dans la première édition de Art et Culture, qui s'appelle Renato Gambulli. Ça vous dit quelque chose? Pas du tout.
J'en ai entendu vaguement parler, mais voilà. Je compte sur vous pour éclairer ma lanterne.
Nous allons écouter Renato Gambulli, qui est un artiste italien, mais qui parle aussi très bien le français, dans un morceau intitulé « Trop d'amour tue l'amour ».
Ah, ça ma foi.
Écoutons Renato, et s'il suit ce programme, je lui envoie mes plus amicales salutations. Bonne écoute à toutes et à tous.
Art et culture, une émission socioculturelle sur la RCEI, votre radio.
L'amour est un agent secret qui cache bien son identité. À force de tout mélanger, ils nous font croire qu'on le trouve à la télé. Oui, je sais, on a toujours besoin de rêver. Mais pour moi, l'amour ça n'est pas tout. Si l'amour est liberté, il n'y a ni couple ni fidélité. Et si c'était pour la vie, le mien il ne serait jamais parti. Oui, je sais, quand c'est trop, c'est jamais assez. Mais c'est pour ça qu'il n'y a plus rien de vrai.
Nous abordons la troisième et dernière partie de notre programme Art et Culture, quatrième édition, avec notre invité M. Stanislas Boulbé, qui est un coach de violon et qui nous parle depuis la ville d'Ivry, non?
la porte d'Ivry.
Porte d'Ivry. Quelle est la différence entre Porte d'Ivry et la ville d'Ivry?
On est à la limite des boulevards extérieurs, donc à côté du T3. La porte d'Ivry amène à la ville d'Ivry, tout simplement.
C'est extraordinaire tout ça.
Oh, c'est tout simple.
Vous avez beaucoup de portes débouchant sur Paris, sortant de Paris.
Tout autour de Paris, vous avez des portes qui mènent un peu partout. Ça, c'est l'historique de Paris. Ça me dépasse un peu.
Si quelqu'un se perd dans Paris, il trouvera de toutes parts une porte pour se diriger vers où?
Oui, on peut espérer. Mais c'est grand, attention.
C'est très grand, c'est vrai. Alors, monsieur Boulbic, quelles sont, selon vous, les qualités essentielles d'un bon enseignant? Vous nous l'avez bossé brièvement tout à l'heure, mais surtout dans votre travail, pour être un bon coach, un bon enseignant du violon, quelles sont les qualités indispensables?
Moi, je dirais qu'il faut déjà avoir vécu un petit peu. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'en étant trop jeune, on puisse prétendre être bon. C'est l'âge aussi qui vous apprend l'expérience.
Et vous allez vous faire lapider par les jeunes professeurs?
Non, parce que certains sont excellents, mais ils n'auront pas autant d'expérience que quelqu'un qui a déjà 30 ans de vie ou 40 ans de vie derrière lui. Et surtout, connaître le répertoire, mais surtout ne pas se présenter, ne pas briller devant les élèves, c'est pas ça qu'ils recherchent. Ce que veut l'élève, lui, c'est d'être dirigé. Et non pas quelqu'un qui brille devant lui. Beaucoup de professeurs jouent devant les élèves, ils brillent, là, c'est des solistes. C'est pas ça que veut l'élève. Il veut qu'on lui explique le morceau. Comment on fait pour jouer ça? J'explique. Vous trouverez des explications sur des vidéos où j'explique des éléments techniques de base, mais que mon élève, l'autre jour, ne comprenait pas. Alors j'ai tout expliqué, et je recommencerai autant de fois qu'il le faudra. Ça aussi, c'est une qualité. Si l'élève ne comprend pas, il faut réexpliquer. Et réexpliquer encore. Si parce qu'il y a quelque chose qui coince. S'il ne comprend pas comme ça, on va l'expliquer autrement. Il y a toujours une ellipse pour ça comprendre.
Il faut être vraiment patient pour faire ce travail, non?
Oui, c'est pour ça que des fois je suis un peu fatigué, mais ça c'est le métier.
Et vous ne vous énervez pas souvent sur vos élèves quand ils ont du mal à comprendre certaines choses?
Si, mais à l'intérieur seulement.
À l'intérieur.
Je ne le montre pas. Donc, à la maison, parfois, j'en peux plus. Mais je suis tout seul, là, je me défoule, mais il n'y a personne.
Mais vos élèves ne se rendent pas toujours compte que leur prof, leur coach est fâché contre eux parce qu'ils ont du mal à saisir une notion?
J'espère pas. Disons que, je le masque. Je masque beaucoup de choses, à vrai dire. Les difficultés, la fatigue, les sautes d'humeur, il faut tout masquer. L'élève, il n'est pas là pour se faire engueuler, comme on dit. Il est là, il paye une leçon, il veut comprendre. Si le professeur hurle après, c'est qu'il y a un problème. Et malheureusement, ça arrive très fréquemment.
Pour revenir sur le violon, quand on voit l'instrument, le vôtre n'est pas trop loin là. Pour la guitare, il y a les manques, les sillets qui vous positionnent. Voilà. Vous ne pouvez pas vous perdre sur la guitare, sur la tablature. Mais pour le violon, c'est différent. Comment vous arrivez à savoir telle note se trouve à telle position?
Alors là, c'est une question piège, effectivement. Il n'y a pas de repère, mais il y en a quand même. De par la forme de la main gauche, c'est-à-dire qu'on apprend... Alors, il y a 5 doigts, mais attention, ils numérotent de 1 à 4, le premier étant l'index et le quatrième étant l'auriculaire. Alors on apprend déjà à poser le premier doigt tout en bas du manche du violon. Il y a un repère, c'est un bon. Et là je dis à l'élève, voilà le son. Alors s'il ne l'entend pas, je joue. Bon, au bout d'un moment, l'élève va fixer mentalement les intonations. Alors on dit 0, c'est la corde toute seule, 0, 1. Au bout d'un moment, il se rappelle que c'est là. Et puis à partir du 1, on pose le 2. Écarté, pourquoi? Parce que c'est la forme naturelle de la main. Quand on détend la main, les doigts 1 et 2 s'écartent. Et les 2 et 3 se collent. Par-dessus le 2, on colle le 3. Et par-dessus le 3, on va coller le 4. Si c'est bête comme explication, après le tout, c'est d'arriver à ce que le cerveau donne les ordres au bon moment. Après, il y a des problèmes de coordination qui apparaissent. Chez tout le monde, il y en a. Chez les petits comme chez les grands. Chez les petits-enfants, quand il y a vraiment des problèmes de coordination, il y a les orthophonistes qui sont là pour ça. chez les grands, ben, ma foi, ben, on fait avec, et puis...
La fausse note, c'est pas trop rare dans
ça arrive. Si, à vrai dire, bon, première chose que m'a dit Dominique Opto dans son bureau quand je suis rentré, c'était le 4 janvier 82, elle m'a dit, sur ce genre d'instrument, la fausse note peut arriver n'importe quand. Elle m'a dit, si tu en as peur, elle arrivera encore plus vite. Alors, n'en aie pas peur et joue. Voilà, ça c'est... Alors, si... Pour le problème des grands interprètes, si on ne travaille pas suffisamment, ben on va jouer faux. Si on travaille comme un démon, c'est-à-dire 15 à 18 heures par jour, comme Isaac Stern ou Leonid Kogan, plus on travaille, plus on va accumuler la fatigue et le blocage sur certains passages. Donc, dans les deux cas, on peut jouer faux parce que ou on ne travaille pas assez, ou on se bloque dessus. Il faut trouver le milieu où, ma foi...
Faut garder son équilibre.
Voilà, et ça c'est pas facile.
Abordons maintenant la question de l'improvisation. N'a-t-on pas toujours fait croire que c'était l'affaire des grands maîtres?
Alors cette question complète la précédente que vous avez dit sur la justesse. L'improvisation, c'est vital dans l'étude d'un instrument. Alors je sais que là, je vais en faire hurler certains, notamment dans mes amis des conservatoires, mais je leur casse du sucre sur le dos parce que j'hésite pas. L'improvisation, comme m'a dit toujours Mme Opno quand elle m'a rencontré, « Est-ce que tu improvises ?» me demande-t-elle. Elle connaissait très bien la réponse. Je lui ai dit « Ben non, on me l'a toujours interdit. » Bon, elle me dit « Dans l'improvisation, tu ne peux pas jouer faux, parce que tu écris ton texte au moment où tu le joues, inversement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte, donc on ne peut pas se tromper. Si c'est comme ci et comme ça, c'est que tu l'as voulu comme ça. » Donc tu ne peux pas te tromper. Alors cette technique, pour moi, là, ça a été un déclic. Je dis, mais on s'en met la raison. On m'a toujours interdit l'impro. Pourquoi ? Le professeur disait que ce violoniste de l'orchestre de Paris, qui était excellent d'ailleurs, mais surtout pas de fantaisie, hein, c'est la partition et rien d'autre. Surtout pas de fantaisie. Effectivement, c'est l'apanage des grands, alors en jazz notamment, chez les tziganes, mais on les considère allègrement comme des fantaisistes. Non. Il y a toujours un très grand thésaume que je cite, Stéphane Grappelli, un monsieur qui n'a fait que de l'impro pendant toute sa vie, et qui manquait d'éléments techniques. Il l'a dit lui-même, j'ai pas eu de professeur, il s'est formé avec des amis, avec des partenaires, il a étudié seul, ça se voyait qu'il manquait d'éléments. Mais ce qu'il avait comme technique, il a su l'utiliser en poussant au maximum la technique de l'improvisation. Alors, vous dites, c'est l'affaire des grands. Oui et non. Moi, je pense qu'un petit débutant peut faire de l'impro. Et qu'est-ce que je fais, moi, avec mes petits élèves? Ben, à la première leçon, déjà, ils n'ont qu'une demi-heure de pratique derrière eux. La première leçon, on dit, voilà, tu vas te mettre là-bas, et je leur apprends comment on fait pour rentrer sur scène. Alors, c'est tout un rituel, on salue, et il dit, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Ce qu'ils fassent par la tête. Bon, alors, il n'y a que 3-4 sons qui sortent au départ, mais c'est déjà de l'impro. Et puis après, dans le temps, ils improvisent de plus en plus. Un petit garçon qui m'a dit, là, il y a 2 semaines, il était fatigué, il dit, mais ça passe pas, j'ai pas d'idée, là. Il dit, tu te laisses aller, tu tires un son, et tu te laisses aller. Il n'osait pas, puis au bout d'un moment, comme la petite fille de samedi dernier à Courbevoie, pareil, elle a tiré un son, puis on l'a écouté avec sa maman, puis elle s'est déclenchée, puis c'est parti. Une impro qui a duré 5 bonnes minutes, je dis, ben dis donc, pour quelqu'un qui n'avait pas d'idée, tu as fait un concert terrible. Donc c'est pas l'apanage des grands, c'est tout le monde, on doit faire de l'impro. Si vous prenez la musique ancienne, à l'époque baroque, tous les musiciens savaient improviser sur leur instrument. C'est une pratique qui a été considérée comme, mais comment, comme proscrite après. Mais non. J'ai été contacté par des gens, moi, qui avaient déjà une grande pratique du violon, et qui me disent, mais dès qu'on enlève la partition, je suis perdu. Pour moi, improviser, c'est entre guillemets, faire n'importe quoi. Et oui, c'est malheureux, mais c'est pas faire n'importe quoi, c'est se laisser aller, à faire sauter votre potentiel. Et à partir de là, après, bon, on canalise vers les éléments techniques, mais pas l'inverse. Autrement dit, quand on a exploré tout ce qui est interdit, après on peut dire, bon, maintenant je retourne sur la route.
Nous sommes à quelques minutes de la fin de notre programme. Monsieur Stanislas.
On va y arriver.
Stanislas.
Voilà.
Bon, c'est plus facile de dire Monsieur Bulbig.
Oh, c'est vous qui voyez.
Ah oui, Monsieur Bulbig, là, il n'y a pas de difficulté de le dire, les yeux fermés. Donc, vous privilégiez l'apprentissage par l'expérience et l'observation, c'est ça?
Oui, surtout. L'expérience, c'est-à-dire que on pratique des partitions, on se rend compte un jour que, bon, celle-ci, ben, ma foi, c'est plus compliqué que je pensais. Alors, plutôt que de se heurter dessus, bon, hop, on fait un petit tour autre part, et puis un jour on n'y rien, et puis ainsi de suite, et jusqu'au jour où, tiens, cette partition, bah, il y a 6 mois elle ne passait pas, maintenant ça passe. Donc il y a eu une sorte de décantation qui s'est faite mentalement, et donc la difficulté s'est résolue d'elle-même.
Et il y a tellement de clichés autour de cet instrument, le violon. Pensez-vous ainsi faire évoluer les mentalités?
Non seulement je pense, mais je l'espère. Vous pourrez observer dans mon site à votre occasion la rubrique que j'appelle « Les vieux clichés ». Alors, on va résumer ça grosso modo. Le violon, ça sonne comme de la ferraille. Vous allez scier du métal, vous n'y arriverez jamais, c'est trop difficile. Non. Si on sait l'aborder convenablement, ça ne va pas sonner comme de la ferraille. Ça sonne... Bon, je fais en sorte que mes élèves aient un son facile. Voilà. Et à partir de là, bon, tôt ou tard, on entre dans des difficultés. Mais bon, sans s'en rendre compte, on passe au travers.
Sans se rendre compte.
Mais bon, on se rend compte tôt ou tard, finalement, mais j'y allais, bah oui, je t'ai menti, mais il y avait une difficulté, je te l'ai caché.
Donc, avec votre méthode, M. Bulbig, la crainte des fausses notes n'est donc pas un vrai problème avec votre méthode, je pense.
Alors, c'est un problème sans l'aide, c'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, la fausse note peut arriver n'importe quand. Si vous en avez peur, elle arrive encore plus vite. Alors, il y avait eu une petite anecdote, ça remonte aux années 40, il y avait un très grand pianiste qui s'appelait Arthur Rubinstein. C'est pas votre époque. Et il y avait aussi un très grand violoniste qui était beaucoup plus jeune, un certain Yascha Heifetz. Et Yascha Heifetz, c'était vraiment le Paganini du XXe siècle, un jeu parfait, c'était grandiose. Et un jour, en jouant les airs bohémiens de Sarrasate, Heifetz a fait une fausse note. Alors, scandale dans la presse, tout le monde s'en est emparé. Rubinstein a dit, Heifetz a fait une fausse note, et alors? Moi, j'en ai fait des brouettés de fausses notes. On m'a jamais rien dit. Donc, jouez, n'ayez pas peur. J'ai entendu Leonid Kogan sur scène, qui était un fabuleux virtuose soviétique, en 76, dans le concerto de Beethoven. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était fatigué, il était malade, il avait des problèmes de santé. Dans un solo, bah, il a mis les doigts à côté, il s'est cassé la gueule dedans, ça a fait un effet terrible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est comme ça. J'ai entendu Isaac Stern de la même époque, dans le troisième concerto de Saint-Saëns. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est foutu par terre, il a raté son truc. Il l'a répété mais des milliers de fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, ça arrive à tout le monde, aux petits comme aux grands. Faut pas avoir peur, on joue. Voilà. Et plus on joue avec facilité, plus on a des chances que, ma foi, ça... Mais on n'est jamais à l'abri d'un accident.
Mais il semble que les profanes, les non-musiciens, juste les auditeurs, les amateurs, ils sont plus exigeants par rapport à l'œuvre ou bien à la performance des musiciens que les vrais musiciens eux-mêmes. Beaucoup de gens ont peur de faire de la musique, c'est pas à cause de l'encouragement qu'ils pourront recevoir des musiciens, mais c'est le découragement, la critique un peu acerbe des profanes.
Ah, ça, les critiques, vous en aurez toujours. La critique des profanes, ma foi, moi, je dirais qu'on ne peut pas critiquer quelqu'un valablement sans avoir quand même compris ce dont on parle. Comme tout à l'heure, on a évoqué l'ouvrage de la Bible, on ne peut pas la critiquer sans avoir quand même parcouru un peu. Entendre un violoniste qui est tombé à côté au cours d'un concert, on dit « Oh, c'est un minable, il joue faux ». Non, il faut savoir ce qui s'est passé. Ça se trouve, il arrive de Moscou, de New York, il est fatigué, il est tombé à côté, ben, ça arrive. On n'a pas droit à critiquer, on peut que constater que. Mais faire des critiques, c'est toujours un peu méchant quand même.
Monsieur Boulbic, des intéressés vont sans doute vouloir vous contacter pour apprendre un peu plus de vous, de votre méthode. Comment pourront-ils le faire? Avez-vous un site personnel où ils pourront vous contacter?
Oui, bien entendu, monsieur. Je vous donnerai les coordonnées tout à l'heure. Il y a un site qui tourne donc depuis une dizaine d'années, que j'avais fait personnellement au départ. On m'a fait remarquer que, bon, c'était un peu tapageur sans les couleurs. Il faut évoluer, hein. Alors, une critique, deux critiques, trois critiques, je me suis dit, allez, ça suffit, là. Il faut en tenir compte. J'ai été contacté par un webmaster, depuis Viadeo d'ailleurs. Il m'a dit, voilà, je vous le refais. Il l'a refait. Entre-temps, j'ai ajouté des vidéos, j'ai ajouté des partenaires, j'ai amélioré. Sur le site, vous avez accès à des vidéos, vous le consultez. Il y a une vidéo sur la page principale où je parle de moi, et il y a une rubrique qui s'appelle « Autres vidéos », où là, vous consultez ce que vous voulez, vous pouvez choisir. Dans le site, il y a le téléphone mobile, le téléphone fixe, ma foi, il y a la boîte aux lettres.
Il y a tout, là.
Et tout ce qu'il faut.
Si quelqu'un ne vous contacte pas, c'est qu'il ne le veut pas.
Oh, on va quand même pas les obliger.
Oui, c'est ça.
Pareil.
Mais avant de conclure... J'ai visionné une ou deux vidéos que vous avez mises sur votre site. C'est très explicite. Ne craignez-vous pas que les gens deviennent des maîtres sans même vous avoir contacté? Ils vont pirater vos techniques.
Non, c'est pas possible dans le sens où on ne remplacera jamais la présence de l'être humain. C'est comme les gens qui prétendent étudier le karaté seulement dans les bouquins. C'est pas possible. J'ai pratiqué un peu, bon, je sais ce que c'est. Je prends un niveau. D'abord, je peux plus parce que j'ai une fracture à la main droite. J'ai des problèmes avec mon dos, c'est interdit. On ne peut pas pratiquer seulement dans l'absolu. Madame Hopno a étudié sa technique dans les arts martiaux. Elle n'a jamais pratiqué, mais. Elle a pioché partout pour comprendre cette notion d'équilibre, de respiration, l'axe des centres vitaux, tout ça. Mais elle n'a pas pratiqué. Moi, j'ai pratiqué. Donc, je sais ce que c'est qu'un entraînement de karaté, entre autres. On ne peut pas prétendre étudier la philosophie seulement en s'enfermant avec des bouquins. Il faut parler avec les gens. On ne peut pas prétendre faire du vélo sans être monté sur une bicyclette. Donc, vous ne remplacerez jamais l'explication de l'être humain. Donc je ne pense pas qu'on puisse... j'espère que certains vont s'en inspirer, mais je ne pense pas qu'on puisse remplacer l'être humain. Puis il y a aussi, comme disent nos amis américains, le feeling. Voilà. Ça passe ou ça passe pas. Hein. Voilà.
En guise de conclusion, auriez-vous quelque chose d'autre à ajouter?
Écoutez, Dominique Hopno a monté sa boîte au milieu des années 50 en disant « il y a un réel problème de la pédagogie en France ». Elle a vécu, elle nous a quittés très tôt, elle est morte, elle avait 58 ans, fin 83. Je me suis rendu compte qu'il y avait un réel problème de la pédagogie en France. J'ai monté ma boîte, j'arrive, bon, vers la moitié de ma vie, ou le trois quarts, je ne sais pas. Je partirai moi aussi un jour. J'espère, tout comme elle, avoir planté des graines, qui j'espère vont pousser et faire des adeptes.
Extraordinaire ce que vous dites.
J'espère que je n'aurai pas fait ça pour rien.
Bien, la radio Ebenezer International vous remercie de votre disponibilité.
C'est moi qui vous remercie.
Et vous souhaite une bonne continuation.
Merci, monsieur.
Au revoir, monsieur Boulbic.
Au revoir, monsieur Doris.
Art et culture. Une dernière pause musicale avant de partir. Sonia Demesio. En avance.
Les grands boulevards pour les chemins qui le réservoir, le plein d'essence, pourvu que je parte en avance. Je l'aime trop pour faire marche arrière. Il m'attend en face de la mer, sur les galets de son enfance, pourvu que j'arrive en avance. fatigué. Désormais, je m'en remets à la chance. Qui sait si tu seras.
Every day, anywhere, anytime, the Digital Gospel Channel, your station. Voilà qui met fin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à ce nouveau numéro de l'émission Art et Culture. Ce m'était un vrai plaisir de passer en votre compagnie ces précieuses minutes dans l'univers de ce coach du violon, M. Stanislas Boulbik. Si ce programme vous a plu, si vous avez des questions, des commentaires, ou si vous voulez tout simplement des informations supplémentaires concernant M. Stanislas Boulbik, vous pouvez soit le téléphoner au 06 88 22 40 16, je répète, 06 88 22 40 16, ou vous rendre également sur son site le www.auviolonagile.com. Je répète, www.auviolonagile.com. Auviolonagile.com. Gilles s'écrit G-I-2-L-E-S. Avant de partir, je remercie sincèrement M. Boulbik d'avoir accepté très gentiment notre invitation pour la réalisation de ce programme. Je remercie également les autres artistes, musiciens, compositeurs, interprètes qui ont apporté leur contribution à cette émission. Commençons par la société Sephora Musique de la Vie à qui nous devons la version instrumentale du Quatuor à cordes que nous vous avons proposé tout au début de l'émission. Le pianiste concertiste Bernard Job, qui nous a fait l'honneur d'être notre invité dans la deuxième édition de ce même programme, ainsi que l'artiste italien Renato Gambulli, qui était notre invité dans la deuxième édition. Sans oublier l'artiste Sonia De Melio, ainsi que cette nouvelle voix que vous allez découvrir pour la première fois sur nos ondes, l'artiste Solveig. Mes remerciements vont aussi vers le pianiste, musicien, compositeur, interprète Stéphane Patin, à qui nous devons le générique de cette émission. Et à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices qui étaient branchés depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie sincèrement de votre écoute et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Art et Culture. C'était pour vous servir, au micro et à la réalisation, votre ami podcasteur Franck Doristil, qui vous dit une fois de plus merci et au revoir. Vous venez d'écouter Art et Culture, une émission socioculturelle qui vous conduit dans l'univers des artistes, musiciens, compositeurs et interprètes. art et culture sur la radio chrétienne Ebenezer International. The Digital Gospel Journal, your station.
Thank you.